Alors c'est le premier message du mois et j'avais à cœur de, pour ce mois qui commence de faire une série de messages. Et puis avant de commencer ce matin, j'avais à cœur, puisque j'ai déjà eu l'occasion, certainement vous avez peut-être déjà entendu quelques-uns mon témoignage, mais de commencer par donner quelques points sur mon témoignage, que vous puissiez savoir qui je suis un petit peu et d'où je viens. Et puis à la suite de ce témoignage, je développerai quelques pensées autour d'un thème que j'ai sélectionné pour cette série. Et alors moi, donc, c'est Julien, mon petit nom. Donc, j'ai 44 ans et moi, j'ai grandi en Normandie, dans la région de Rouen. Et je sais que je ne suis pas le seul, n'est-ce pas? Et on est envahi par les Normands depuis un moment, n'est-ce pas? Et puis, moi, j'ai eu la chance, la grâce de Dieu, et fut une époque, je disais, ou pas, mais de naître dans une famille chrétienne, où en tout cas, les parents allaient à l'église. Et pourquoi je dis ça de cette manière? Parce que je ne veux pas du tout ternir le tableau, mais c'est vrai que des fois, on va à l'église, et puis on a peine à pouvoir vivre ce qui est véhiculé, ce qui est vécu par la majorité des gens dans l'église. Et puis, je dois le dire sans aucune accusation, que pour mes parents, ce n'était pas le cas. Ils avaient évidemment leurs difficultés à eux, beaucoup de problèmes dus à l'enfance et leur construction personnelle, qui font que moi, étant gamin avec mes frères, et puis j'ai une petite sœur qui est arrivée des années après, on allait à l'église tous les dimanches. C'était comme le rituel, vous savez, et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait la semaine, et puis le dimanche, ce que je disais tout à l'heure pour rigoler, il fallait mettre son sourire, parce qu'on allait à l'église, et même si quelque part on crevait tous à l'intérieur. Et je voyais, à l'époque, j'avais l'impression de cette église, le prédicateur qui nous stimulait, et puis j'avais l'impression que la réponse à donner à chaque fois que ça allait mal, c'était Jésus, évidemment. Tu vas pas bien, c'est Jésus, tu as besoin de régler ça, c'est Jésus, etc. Et c'était un peu, presque pour moi, une formule magique. Et puis je voyais mes parents aller à l'église avec assiduité, nous les accompagner. Et j'avais l'impression que lorsque j'allais à l'église, c'était des belles couleurs, c'était génial, c'était un peu un show à l'américaine, même si ce n'était pas le cas. C'était quelque chose de, merci Nico, de vraiment génial. Et puis c'était tellement la différence chez moi, sans aucune accusation. Mais ma mère se battait avec la dépression et puis mon père faisait ce qu'il pouvait pour vivre aussi sa vie. Il était un peu comme moi quand je fais des rechutes, c'est-à-dire qu'il ne discutait pas beaucoup, il ne parlait pas beaucoup et pas l'ombre d'un doute sur l'amour qu'il avait pour nous, mais un peu l'impression de vivre seul et puis de nous construire tout seul. Ma mère se battait avec la dépression et puis elle s'occupait bien de nous, elle nous aimait aussi, mais c'est vrai que c'était tellement compliqué pour elle que dès qu'on partait à l'école, elle fermait les volets et puis voilà, c'était terminé, quoi. Et donc, il y avait quelque part ces deux facettes que je voyais. Le dimanche, c'était génial, ou en tout cas, tout le monde essayait de se dire que c'était génial. Et puis, c'était tellement, comme je sais que Bernard dit des gros mots, c'était tellement la merde chez moi que du coup, je me suis dit que si Dieu existait, bah, finalement, on ne le trouvait pas à l'église. Ou alors, on devait le trouver ailleurs. Et j'avais vraiment peine à me dire que toutes les questions que j'avais, toutes les souffrances que j'avais, même en étant gamin, on me disait « faut aller à l'église » et aller à l'église ne changeait pas ma vie. Et je constatais que ça ne changeait pas non plus la vie de mes parents. Alors du coup, il y a eu toute une construction qui s'est faite chez moi où je me disais, bah, c'est pas que je crois pas en Dieu, c'est pas que je me dis que Dieu n'existe pas, mais il y a un problème et s'il existe, en tout cas, je ne le trouve pas à l'église. Et donc j'ai essayé, comme tout un chacun, de vivre ma vie en essayant de me construire. Et puis moi, c'était mon échappatoire, c'était le sport. Alors j'ai essayé de percer dans le sport. J'ai fait beaucoup de vélo, je pense que vous le savez aussi. J'en fais toujours un peu, sauf ces derniers mois, évidemment. C'est pour ça que j'ai pris un peu de... Mais ça va se régler bientôt. Mais du coup, c'était mon moyen de survie. C'était de faire du sport. Alors, beaucoup de vélo, beaucoup de compétitions. Et puis, le sport, en général, m'intéressait. Et ce que je voulais, moi, c'est percer. Je voulais devenir quelqu'un. Et puis, comme tout un chacun, évidemment, surtout quand on est jeune, on ne veut pas se contenter des secondes places. On veut être le meilleur. Et puis, les coureurs cyclistes de l'époque, c'était Laurent Jalabert, Richard Virenque, etc. C'était des modèles pour moi, des gens qui me faisaient rêver. Et j'essayais d'exister au travers de ça, au travers du sport. Et je me suis donc détourné de l'église. J'allais à l'église de temps en temps. Mais pour moi, Dieu, quelque part, c'était n'existait pas. Et puis, mes parents ont continué leur cheminement. Et puis, il faut dire qu'ils allaient de mieux en mieux, je trouve. Mais moi, ça ne changeait pas ma vie. Et puis, ma mère, je pense, à un moment donné, a réglé un peu cette dépression, cette mélancolie qui la suivait depuis toujours. Et puis, mon père aussi. Et puis, ils ont continué de cheminer avec le Seigneur. Ça, c'était leur parcours personnel. Mais moi, Dieu, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Donc, je survolais l'église. J'allais de temps en temps à l'église. Et puis, jusqu'à l'âge de mes 17 ans, où ma mère me dit, Julien, il y a un super truc avec les jeunes qui se fait à Pâques et j'aimerais bien que tu y ailles. Et puis j'ai dit à ma mère, c'est mort, j'irai pas, mais oui, vas-y, avec ton cousin. Et j'y suis allé avec mon cousin qui, lui, voulait venir pour cette fois. Et si vous voyez mon cousin aujourd'hui, vous rigoleriez. Il faudrait vraiment que le Seigneur touche son cœur, vraiment, aujourd'hui. Mais il est à des années-lumière de servir le Seigneur. Et pourtant, c'est lui que le Seigneur a utilisé à plusieurs reprises pour être un canal pour moi de bénédiction et me mener au Seigneur. Enfin bref, du coup, mon cousin allant à ce truc de jeûne, on se retrouve tous ensemble avec mon cousin et puis des gars un petit peu comme moi, c'est-à-dire qui étaient obligés presque par leurs parents à aller à ce truc-là. Et puis me voilà à 17 ans pendant 3 jours, c'était à Bethel. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, plein de jeunes et compagnie. Et puis des réunions tous les jours, le matin, l'après-midi, le soir. Donc pour un jeune de 17 ans qui n'a pas envie de vivre ça, vous imaginez l'ambiance. Enfin bref, heureusement qu'il y avait des gars comme moi, je me disais à l'époque. Et puis qui étaient là, on a sympathisé, on a fait plein de trucs ensemble. Et on n'a surtout pas été aux réunions. Et puis on passait du temps un petit peu à l'extérieur et je vous passerai les détails. Et puis si bien que, comme je vous disais, c'était en Normandie, il y a toujours un petit peu de pluie qui arrive à un moment donné. Et donc ça a été le cas lors de ce dernier jour, c'était le lundi. Et puis ils avaient fait venir pendant ce séminaire un pasteur américain qui s'appelait Paul Tucker. Voilà, ils sont forts ces Américains, je dis toujours. Et surtout cet homme-là, inspiré de Dieu, utilisé par Dieu puissamment. Et puis comme il pleuvait, on a été obligés d'une certaine manière de se réfugier dans la chapelle où la réunion était donnée. Et puis on n'avait rien suivi de ce qui avait été enseigné. Mais voilà que ce fameux Paul Tucker, ce pasteur, apôtre même américain, commence à dire « J'ai à cœur de prier pour tous ceux qui font de la musique ». Et puis il n'a pas dit pour ceux qui font la louange dans l'église, il dit « Tous ceux qui font de la musique ». Et puis moi, je n'avais pas suivi la suite. Et moi, j'entends ça d'une oreille tellement peu attentive que bon, bref. Et voilà mon cousin, mon fameux cousin, qui dit, bah, Julien, c'est ton tour, là. C'est pour tous ceux qui font de la musique. Et donc, moi, vous savez que je fais de la musique depuis tout petit. Hein. J'ai commencé le saxo à l'âge de 7 ans. Et puis voilà que mon cousin me dit, bah, vas-y, il faut que tu y ailles. Presque en se moquant de moi, en me disant, il faut que tu y ailles. Et puis, enfin, bref, j'y vais. Je me retrouve devant. Et puis, il y avait quelques jeunes, quelques personnes qui s'étaient avancées sur le devant, et puis voilà ce pasteur américain, vraiment la tête de l'américain. Est-ce qu'il y a des Américains parmi nous d'ailleurs? J'aurais dû poser la question avant. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Et vraiment la carrure de l'américain, très grand, et puis avec une grosse voix, enfin en tout cas, dans le cliché de moi, que j'avais des Américains. Et puis il prie pour quelques personnes, et moi je m'étais mis bien caché, vous voyez. Et puis voilà que ce gars-là lève la tête. Et puis il vient me parler. Et en fait, traducteur, heureusement. Et puis voilà que le Seigneur me parle au travers de lui. Et c'est tout un défilé de ma vie qui jaillit de sa bouche. Et c'est comme si, au moment où il parle, Dieu parle évidemment au travers de lui et il répond à toutes mes interrogations. Et non seulement il ne fait pas que ça, mais il me dit, voilà, Julien, je t'appelle en plus. Julien, je t'appelle à me servir. T'appelle à aller plus loin avec moi. Et moi, je suis là, je ne comprends rien à ce qui se passe. Je sens une présence qui m'envahit, présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui m'envahit. Et je pleure. À l'époque, je disais comme un blaireau par terre. Je suis tellement touché, tellement inondé, foudroyé par la présence de Dieu que j'ai la réponse à ma question existentielle. Où je me disais, si Dieu existe, quelque part, révèle-toi à moi. Fais quelque chose. Et ce jour-là, j'ai rencontré Dieu. J'ai découvert que Dieu était un Dieu de grâce, que moi, j'avais rien fait pour le rencontrer. Bien au contraire, je n'avais fait que fuir. Et c'est lui qui avait choisi de me rencontrer et de répondre à cette question. Est-ce que Dieu, tu existes? Et c'est comme si ce jour-là, il me disait, oui, j'existe. Et c'est comme si Dieu me disait, voilà, j'ai vu tout ce que tu as vécu. Je connais toutes tes peines. Alors, ce n'est pas les misérables non plus, hein, je ne veux pas dramatiser. Mais je sais tout ce que tu peux ressentir. Je sais tout ce que tu as pu vivre. Et voilà, je suis là. Je suis ce Dieu que tu cherches. Et je t'appelle. C'était un moment mémorable pour moi. Et j'ai l'habitude de dire, j'aimerais vous dire qu'à partir de ce moment-là, ça a changé ma vie. D'une certaine manière, oui. Mais à ce moment-là, je n'ai pas été jusqu'au bout. Et je n'ai pas fait le choix de régler peut-être certaines choses que j'avais à régler. Et d'une certaine manière, j'avais absorbé une information intellectuelle. Oui, Dieu existait. Mais moi, je n'étais pas prêt forcément à le suivre. D'ailleurs, le suivre, ça me paraissait tellement énorme. Parce qu'aujourd'hui, vous me voyez parler, vous me voyez peut-être à l'aise, vous me voyez dire des versets bibliques et des choses comme ça, et vous dites, Julien, il est né comme ça, mais pas du tout. C'était à des années-lumière de ce que je pouvais faire ou de ce que je pouvais être. C'est pour ça que suivre Dieu, ça m'a paru presque trop compliqué, comme un géant qu'il fallait abattre, et je n'étais pas capable de le faire moi. Alors, d'une certaine manière, j'ai intégré cette information que Dieu existait. J'ai même pris le baptême dans la foulée en m'engageant à le suivre jusqu'à la fin de ma vie. Mais la vérité, c'est que j'ai changé pas grand-chose à ma vie, en fait. J'allais peut-être un petit peu plus à l'église, mais c'était à peu près tout. Dans ma mentalité, je n'avais pas fait le choix d'abandonner certains raisonnements. Je n'avais pas fait le choix de régler certaines choses dans ma vie. Si bien que ma vie n'avait pas changé et que oui, Dieu existait, mais ça ne changeait pas ma vie. Et j'étais toujours le même, quelque part, toujours avec mes travers, toujours avec ce besoin de vouloir exister, de devoir être quelqu'un. Et puis j'étais souvent, bah, évidemment, face à moi-même, en me disant que j'étais qu'un nul, un bon à rien, un mauvais à tout. Il y en a qui ça arrive aussi, oui. Moi, ça m'arrivait souvent le matin. Alors, pas de problème de coiffure, moi, mais je me disais quand même que j'étais nul et que j'avais tout ça. Du coup, un mal-être. Et puis, la vie était comme ça et souvent vers le bas, jusqu'à un certain drame où là, ça m'a... j'avais 20 ans et puis j'avais... c'était presque trop pour moi. C'était quelque chose de tellement difficile. Et du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, Dieu, si tu existes, et je crois que tu existes maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. Et puis, pendant ces moments où c'était tellement sombre pour moi, j'ai eu l'impression de me vautrer dans tout un tas de trucs. J'aimais bien le sport, comme je vous ai dit aussi, mais plus tard, j'aimais bien aussi faire la fête, n'est-ce pas? Donc, je ne vous fais pas de dessin. Et puis, je suis rentré des fois dans des états. Et puis, enfin, je suis allé très, très loin dans tout ça. Et puis, à un moment donné, comme si Dieu m'avait interpellé dans mon mal-être, et j'avais cette notion que Dieu existait. Il n'était pas le Seigneur de ma vie, mais je savais qu'il était là, presque là, à côté de moi. Et j'ai décidé de me tourner vers lui, et puis j'ai décidé d'aller à l'église plus régulièrement. Et puis voilà qu'encore un pasteur américain, d'ailleurs le même, fait à nouveau une conférence. Il était invité régulièrement à l'église. Et puis moi, j'étais tellement honteux. J'avais rencontré ce Dieu de grâce qui, sans que je demande quoi que ce soit, s'était révélé à moi. Et moi, dans mon schéma, je voulais me dire, ma vie va changer maintenant, et puis maintenant, je vais être le meilleur chrétien du monde. Mais ça n'avait pas été le cas. Et du coup, je me sentais minable, je me sentais coupable. Je me disais, je suis un moins que rien. Et puis en plus, Dieu m'appelait, Dieu m'appelle et maintenant c'est mort. Je ne vais plus pouvoir être utilisé par Dieu, je ne vais plus pouvoir entrer dans ce qu'il a prévu. Et puis voilà que ce pasteur américain est là. Là, j'avais écouté le message. Et puis, il avait fait tout un message sur, il avait pris comme image, le boxeur. Et là, moi, ça me parlait aussi, parce que j'ai fait du vélo, mais j'ai fait de la boxe aussi. Et du coup, le boxeur qui se prend des coups, mais malgré les coups, il est toujours là, toujours à rebondir. Et c'est ça qui compte. Et il avait fait un appel à la fin, et moi je m'étais levé en disant, mais voilà, j'ai morflé, j'ai fait n'importe quoi. Et j'ai morflé à cause de moi, pas à cause de Dieu, pas à cause de la vie, à cause des choix que j'ai pas fait ou des mauvais choix que j'ai fait. Et aujourd'hui, je me sens coupable, je me sens mal dans ma peau, et j'aimerais pouvoir juste recevoir un petit peu encore de grâce de la part du Seigneur. Si je pouvais juste recevoir le pardon dans mon cœur et me sentir bien et plus accusé, ça me suffirait. Et puis voilà que je m'approche pour cet appel, pour dire au Seigneur, ben voilà, je suis là, je ne suis pas digne de quoi que ce soit, mais je suis là. Et voilà que ce pasteur qui ne connaît pas ma vie encore parle de la part du Seigneur et me dit que le Seigneur est fier de me voir ici, il est fier de me voir debout à nouveau et que toutes les promesses qu'il avait faites pour moi auparavant sont toujours d'actualité. Voilà. Et donc me voilà aujourd'hui, des années et des années après, donc toujours m'appuyant sur cette promesse du Seigneur que tout ce qu'il a prévu pour moi est toujours d'actualité. Bernard, il y a quelques dimanches, disait que lui aussi, il attendait encore quelques promesses, que le Seigneur lui montre les promesses. Alors si lui, il attend encore, dites-vous que moi, j'ai encore, qui est un petit peu plus jeune, j'ai encore plus de temps à attendre que lui encore, mais je me fie à ses promesses. J'aimerais vous dire qu'à partir de ce moment-là, la vie a été un long fleuve tranquille, mais ça n'a jamais été le cas. Il y a eu des super moments géniaux, vraiment, qui m'ont boosté pour les quelques années qui ont été difficiles, et puis je sais que ça sera le cas encore. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu ne m'a jamais abandonné, que moi j'ai fait le choix aussi de ne pas l'abandonner. Même dans les moments difficiles, dans les moments de doute, j'ai toujours décidé de revenir vers ce Dieu de grâce qui me donne tout sans que je mérite quoi que ce soit. On essaie des fois de plaire à Dieu, il y en a peut-être qui se reconnaîtront ce matin, en faisant telle et telle chose, en étant assidu à aller à l'église, en faisant telle et telle chose, mais nous ne méritons rien. Dieu est un Dieu de grâce. Nous avons juste à saisir sa grâce et c'est tout. Et j'ai compris ça ce jour-là, et quelque part c'est ce qui a changé ma vie, de rencontrer ce grand Dieu de grâce qui me donne encore, encore et encore sans que je mérite rien. Évidemment, je n'ai pas choisi de vivre n'importe comment en disant bah, « si Dieu est un Dieu de grâce, il va me bénir ». J'ai décidé justement de tomber amoureux de ce Dieu de grâce qui, malgré ma logique humaine où je me dis que quand je fais quelque chose de bien, je mérite du bien, ce Dieu que je sers dit bah, « même si tu fais quelque chose de mal, je continue de t'aimer, je continue de te pardonner, je continue de te faire entrer et les promesses que j'ai pour toi sont toujours d'actualité ». Et donc nous voici maintenant, quelques années après, à Angers, ensemble, à compter sur ce Dieu de grâce. Moi, je vais compter sur lui. Chacun de nous puisse compter sur ce Dieu de grâce qui veut se révéler peut-être ou qui veut vous révéler qu'il est ce Dieu de grâce et que malgré vos faillites, malgré vos difficultés, malgré vos désobéissances, il continue de vous aimer. Et ses promesses sont toujours d'actualité. Amen. Alors, on a des fois dans nos vies, je disais, des complications, des choses qui nous bloquent. Ça a été le cas des fois dans ma vie. Et puis peut-être que ça sera le cas encore. Et puis peut-être que c'est le cas dans votre vie. Et peut-être que c'est le cas aussi dans cette vie d'église. Lorsque je suis venu la dernière fois, je disais votre vie d'église. Maintenant, je dis notre vie d'église. Il y a peut-être dans notre vie d'église comme des géants, comme des places fortes qui sont là et qui nous empêchent d'avancer. Est-ce que tu peux passer la prochaine diapo ? Voilà. J'ai fait une belle illustration. Pour commencer, vous arrivez à voir ? Difficile. Hein ? Si vous ne voyez pas bien, je vous encourage à aller sur Amazon Prime et vous pourrez regarder une super série qui s'appelle La Maison de David et donc qui relate l'histoire du roi David, du berger David et du roi David. Et donc cette image est tirée en fait de cette série tout simplement. Et donc le thème du message, c'est le géant tombera. C'est le thème du message, mais c'est le thème de la série que j'aimerais commencer ce matin. Le géant tombera, le géant qui peut être dans ma vie, dans ta vie ou dans notre vie d'église. Nous avons des géants qui nous empêchent d'avancer et puis qui de mieux que David peut nous parler des géants d'une certaine manière. Alors j'aimerais vous proposer de prendre vos Bibles dans 1 Samuel au chapitre 17 et on va lire à partir du premier verset. Ça va, vous êtes chaud ? Ouais, ok. 1 Samuel chapitre 17 à partir du premier verset. Le texte commence de cette manière-là en disant « Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soco, en Juda, et dressèrent leur camp entre Soco et Azeka, à Éphèse d'Amine. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et y campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de montagne qui lui faisait face. » La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Et ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait une grosseur d'un cylindre de métier à tisser et le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes d'Israélites, et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ? Moi, je suis le Philistin et vous les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous nous serons assujettis. Nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis, vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Et quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. S'arrêtons là à la lecture du texte, nous aurons l'occasion de lire la suite plus tard. Et le verset 16 nous dit que cette situation de peur et de où Goliath sort et puis vient haranguer, vient défier les troupes israélites, ça dure 40 jours. Le schéma de l'histoire, c'est une armée, l'armée de Dieu, celle que Dieu s'est choisie, les Israélites, qui va combattre une armée ennemie, qui leur prennent la tête régulièrement, qui sont souvent en opposition. Et voilà que chacun est d'un côté de la vallée, chacun se regarde. Il y a un côté, les ennemis qui viennent défier ceux que Dieu veut utiliser, voici que ceux que Dieu veut utiliser sont en train de trembler. Et pendant 40 jours, il n'y a rien qui se passe. Tout reste bloqué. la situation n'avance pas. Vous avez déjà lu des récits sur l'armée d'Israël, les choses glorieuses qu'ils ont pu vivre, notamment avec Josué, avec Moïse, et toutes ces choses glorieuses. Et voilà ce peuple qui est là, qui n'arrive plus à avancer, qui est complètement meurtri, si je peux dire, par la peur. Il n'y a rien qui se passe, ils sont bloqués. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations comme ça dans vos vies. Peut-être que des fois, on est chrétien depuis des années-lumière, ça c'est pour les plus jeunes. Depuis quelque temps, on connaît le Seigneur, on a vécu des choses merveilleuses, glorieuses. Et puis là, il y a comme un truc qui se passe, et puis ça n'avance plus dans ma vie. Tout semble bloqué. Quand je prie, ça semble bloqué. Quand je veux aller dans telle situation, c'est bloqué. Mes études, mon travail, ma vie familiale, tout est bloqué. Et souvent, quand on fait l'analyse de ce qui nous bloque, c'est des fois un géant. C'est quelque chose qui est là, qui a pris une place, d'une certaine manière, qu'il ne devrait pas avoir. Dans cette histoire, évidemment, il est question de Goliath. On pourrait réfléchir sur qui est Goliath. On a l'habitude, si vous avez grandi à l'église, de, lorsqu'on est dans les écoles, je ne sais pas comment s'appelle ici l'école du dimanche, ça s'appelle comme ça ? Ouais, bon. L'ABE ? L'ABE. Bon. Faut que j'apprenne, hein. Je suis pas encore stagiaire, je commence aujourd'hui, mais faut que j'apprenne tous les termes. Mais lorsqu'on est petit et qu'on va à l'école du dimanche ou à l'ABE, on entend certainement parler donc de David et Goliath, de toutes ces histoires-là. Et puis on a l'impression que Goliath surgit de ne sait où. Mais c'est qui Goliath en fait ? On pourrait réfléchir d'un point de vue biblique, d'un point de vue historique. Qui c'est Goliath et d'où il sort ? Alors si vous avez l'occasion de regarder la série dont je vous ai parlé, vous verrez qu'on voit l'intervention de Goliath, on le voit avec sa famille, avec ses frères, etc. Donc tout n'est pas forcément... Très biblique, en tout cas très attaché au texte biblique. Il y a beaucoup d'interprétations qu'ils ont fait, mais c'est pas grave, je trouve qu'ils dépeignent vraiment bien le truc. Mais en fait, quand on y réfléchit, Goliath est issu d'un peuple qui ne devait pas être là, qui aurait dû à un moment donné être exterminé. J'ai parlé de Josué tout à l'heure, vous vous souvenez ? Et Josué avait le mandat de conquérir les peuples qui étaient autour et d'entrer aussi dans ce que Dieu avait promis pour eux. Et puis, il leur donne le mandat d'aller dans telle et dans telle région et de tuer tout le monde. Et il y a un texte qu'on trouve dans Josué au chapitre 11, versets 21 à 23, où le texte commence en disant « À la même époque, Josué alla éliminer les Anakim qui vivaient dans les montagnes d'Hébron, de Débir, d'Anab, dans les monts de Juda et dans les montagnes d'Israël. Il les extermina et détruisit totalement leurs villes pour les vouer à l'Éternel. Il ne resta plus d'Anakim dans le pays des Israélites, sauf dans les villes de Gaza, de Gath et Ashdod. » Difficile à dire. Vous avez entendu la ville de Gath. Il venait d'où Goliath déjà ? Voilà. Josué conquit donc tout le pays, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse, et il le répartit entre les tribus d'Israël pour qu'elles possèdent chacune sa part. Et la guerre, c'est ça, dans le pays. Dieu avait missionné le peuple d'Israël pour aller dans telle direction. On peut dire, si on le dit avec nos mots d'aujourd'hui, ils avaient reçu une onction particulière pour aller anéantir ces peuples-là. Et puis, on ne sait pas pourquoi, mais Josué ne va pas jusqu'au bout de la mission que Dieu lui a confiée. Dieu savait à l'avance que ce peuple, en l'occurrence des géants, la description, ils étaient costauds, hein, ils n'ont pas été jusqu'au bout, on ne sait pas pour quelle raison, par flemme, par excès de confiance, ou ils n'avaient peut-être juste pas envie. Et ils ont anéanti tout le monde, sauf les habitants de Gath. Alors, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais ce peuple d'Israël va anéantir tout un peuple de géants. Et quelques années après, c'est juste un seul géant qui se dresse devant le peuple d'Israël et qui fait trembler tout Israël. Étonnant quand même. Et pourquoi est-ce qu'il se tient là ? Qui est ce Goliath ? Qui est sa mère ? Qui est sa famille ? Tout ça, ce n'est pas intéressant. Mais par contre, ce qu'on se dit, c'est que Goliath est là, terrifie le peuple d'Israël, alors que normalement, il ne devrait pas être là. Il y a un géant qui est devant eux, qui s'est installé devant eux, alors que Dieu auparavant avait donné l'onction nécessaire à Israël pour qu'il ne soit pas là. Mais Josué, le peuple d'Israël, n'a pas été jusqu'au bout. Et aujourd'hui, un seul ennemi les fait trembler et les empêche d'avancer, les paralyse. Pourquoi je vous ai donné mon témoignage tout à l'heure et que j'ai insisté sur le fait que lorsque j'ai rencontré le Seigneur, cette révélation particulière, j'ai dit que ma vie n'avait pas changé. Et ma vie n'a pas changé, pourquoi ? Parce que j'ai fait le choix de ne pas aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est évident pour moi. Et il y a eu quelques années qui ont suivi cette rencontre avec Dieu, qui ont été pour moi des années de galère, de difficulté, avec des géants qui se dressaient devant moi, parce que je n'avais pas été jusqu'au bout. Par négligence, parce que je n'avais pas envie, par peur, par crainte, mettez ce que vous voulez, mais je n'avais pas été jusqu'au bout. Et d'une certaine manière, ces géants que j'aurais dû terrasser au moment de ma conversion, ils m'ont suivi pendant des années après. Et ils se sont dressés à l'instar de Goliath devant moi, en me faisant trembler et en me paralysant, m'empêchant d'avancer et d'aller plus loin. On a dans nos vies, vous le savez certainement, des moments où, dans sa grâce, Dieu nous donne une onction particulière pour terrasser tout un tas de choses. Vous vous souvenez, lorsque vous avez rencontré le Seigneur, tout semblait possible. Je vais aller partout dans le monde, je vais faire telle et telle chose, etc. Et puis souvent, on ne va pas jusqu'au bout. Je rencontre Dieu et je comprends qu'il peut me libérer de telle et telle chose, de telle addiction et de telle mentalité. Et puis je laisse tomber. Ou je me dis, finalement, ce n'est pas si grave. Ou je réglerai ça demain. Ou on met tous les « ou » qu'on veut. Mais finalement, ces choses qu'on ne règle pas viennent se dresser devant nous et nous empêchent d'avancer. Peut-être que ce matin, au moment où je dis ça, vous pensez à un géant qui est dans votre vie. Et je vous pose la question, je nous pose la question, qui est ton Goliath? Quelle est la chose dans ta vie qui t'empêche d'avancer aujourd'hui? Qui est ton Goliath? Qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui t'empêche de t'engager plus? Nous rencontrons le Seigneur, nous recevons une onction pour aller plus loin avec lui, et puis on laisse le naturel reprendre le dessus. Nous voulons suivre le Seigneur, mais c'est tellement plus facile de se laisser vivre. C'est tellement plus facile de dormir le dimanche matin. C'est tellement plus facile d'avoir une vie détachée de l'Église. C'est tellement plus facile de se faire du bien que de payer un prix. On dit des fois à l'Église, ce n'est pas le cas dans cette Église, pas le cas dans les Églises sérieuses, mais on nous dit, suis le Seigneur et tu n'auras plus jamais aucun problème. Ta vie sera géniale, ça sera merveilleux, etc. Oui, ça sera merveilleux parce que tu rencontres Dieu, mais la vérité, c'est que ça ne sera pas si facile que ça. D'ailleurs, le Seigneur Jésus le dit, celui qui veuille me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Si quelqu'un veut me faire une explication de cette expression-là, je suis preneur, mais on comprend bien que ça ne va pas être facile. D'ailleurs, les disciples qui le suivent paieront tous aussi un lourd tribut de suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur, ce n'est pas facile, mais ça vaut le coup. Des fois, on ne va pas jusqu'au bout de ce qu'on doit régler. On sait que le Seigneur nous appelle dans telle direction. Des fois, c'est pardonner notre famille, pardonner des ennemis, pardonner des gens qui nous ont fait souffrir. Et puis, on laisse, d'une certaine manière, l'onction passer. Le temps passe, et puis l'onction disparaît. Quand je parle d'onction, c'est un moment donné, un moment clé où le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir le faire par son esprit. Et puis après, ça ne veut pas dire que c'est plus possible que ça soit réglé. Mais c'est plus difficile. Voyez, ce peuple qui va tuer, exterminer tout un peuple de géants, et un seul géant va les paralyser pendant 40 jours. Peut-être que c'est ton cas ce matin, peut-être que tu écoutes, et peut-être que, à la suite de cette question, je disais, qui est ton Goliath? Tu sais qui est ton Goliath. Et rien que d'y penser, peut-être que ça te fait trembler, et peut-être que tu n'as même pas envie d'y penser. On a tous des fois dans nos vies des choses qui nous font souffrir, et puis, plutôt que de les affronter, on préfère ne pas y penser. Parler des fois avec des gens et puis ils te disent « Oh, parle-moi d'autre chose, je n'ai pas envie d'en parler. » Mais c'est peut-être ce Goliath-là qu'il faut affronter. Alors, le texte nous dit que pendant 40 jours, ce Goliath, ce géant, se dresse devant eux. Et puis après, la suite de l'histoire, comme vous avez été à l'EBE, vous la connaissez, c'est qu'un David viendra, qui lui est oint par le Seigneur, et puis que Dieu utilisera, et ça sera la suite du prochain message. Mais il est question de 40 jours. Et lorsque je suis venu la dernière fois, j'avais parlé aussi des 40 jours qui étaient nécessaires. Le chiffre 40 est le symbole de l'action nécessaire de Dieu, du temps accompli de Dieu pour faire son œuvre. Dieu fait une œuvre parfaite, et ne croyons pas que lorsque nous vivons des choses difficiles ou que même un géant se dresse devant nous, que Dieu n'est pas au contrôle et que Dieu nous a oubliés. Dieu est celui qui change le mal en bien, et l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Et même au travers des géants que nous avons laissés nous-mêmes s'installer dans nos vies et qui nous bloquent, Dieu cherche à se glorifier. Et des fois, il prend le temps nécessaire. Je vous ai parlé de ma vie où de mes 17 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, j'avais laissé des géants s'installer. Et puis pour moi, ça a duré à peu près 3 ans, 3-4 ans, à ce que je règle certaines choses. Peut-être que vous qui êtes là ce matin, c'est plus long. Peut-être que vous dites, moi, ça fait, je suis bloqué de chez bloqué depuis 40 ans. Ou je suis bloqué de chez bloqué depuis ma conversion au final. Ou depuis tant et tant d'années. Ou peut-être que ça fait quelques jours. Peu importe. Il y a un temps qui est nécessaire, un temps d'accomplissement. Où pendant ce temps, on renonce à nous-mêmes. Je vous ai dit que moi, j'étais, comme beaucoup de jeunes hommes peut-être, quelqu'un qui voulait se réaliser. Quelqu'un qui voulait exister. Je voulais être le meilleur de chez les meilleurs. C'est peut-être plus propre aux hommes, ce genre de philosophie et d'aspiration. Je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas vous dire. Vous me direz, mes sœurs. Mais moi, c'était présent là, où je voulais être vraiment le meilleur, exister. Et tous ces temps, d'une certaine manière, où le géant s'est dressé devant moi, et c'est encore le cas peut-être des fois aujourd'hui, il y a eu un temps nécessaire pour moi de brisement et de renoncement. Je vous parlais du Dieu de grâce que j'ai rencontré. Et en rencontrant ce Dieu de grâce, j'ai rencontré un Julien qui ne pouvait rien pour sa vie. Et qui, même s'il voulait être le meilleur, sans me lamenter, au final, je ne suis pas capable de grand-chose. Et que ce Dieu que je sers, qui peut faire les choses en moi. Et ce temps a été nécessaire pour renoncer à moi. Parce que si on est plein de nous, on n'est pas apte à servir Dieu. Si on n'est pas prêt à renoncer, à se voir tel que Dieu nous voit, d'une certaine manière, avec un regard bienveillant, aimant, sans nous culpabiliser, mais tel que nous sommes, c'est-à-dire incapables de le servir, nous ne pouvons pas servir Dieu. Et ce temps est nécessaire, on se voit dresser devant nous le géant, la difficulté, pour réfléchir à nous-mêmes. Parce que le texte nous dit que pendant 40 jours, ce Goliath vient les provoquer. Et si vous regardez la série, je trouve que c'est tout à fait bien fait. Il vient les narguer, vient dire « Est-ce qu'il y a un bonhomme ici qui va venir m'affronter ?» Est-ce qu'il y en a un qui va avoir le courage de sortir? Et ça les renvoie à leur peur et leur frayeur. Ce que je disais lorsque Dieu m'a appelé, d'une certaine manière, il m'a dit « Julien, je voudrais que tu me serves. » Moi, ça m'a renvoyé à ce que j'étais incapable de faire. Ça m'a renvoyé à ma nullité. Moi, je me trouvais nul. Et mes frangins ont bien réussi dans la vie. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu du mal à me dire que j'avais réussi dans la vie. Ils ont fait tout un tas d'études, etc. Et puis moi, je me voyais nul, je n'aimais pas l'école déjà. Et puis l'école ne m'aimait pas non plus, d'ailleurs. Et puis j'ai quelques diplômes, et pour moi, ce n'était pas valorisant. Et j'avais du mal à me voir, parce que justement, je voulais exister, je voulais être le meilleur, etc. Mais je ne suis pas le meilleur, comme aucun d'entre nous, d'ailleurs. Et ce géant qui est là pour nous faire réfléchir. Il est peut-être là, d'une certaine manière, pour mettre le doigt là où ça fait mal. Où Goliath dit, y en a-t-il un qui sera capable de sortir? Et la vérité, c'est que non. Aucun, par ses capacités, ses propres forces, ne pouvait sortir et le défier. Il avait besoin d'autre chose. 40 jours où Dieu fait son œuvre, où il laisse des fois aussi l'ennemi faire son œuvre tout en contrôlant, pour que nous puissions à un moment donné réfléchir de la bonne manière. Réaliser que nous ne sommes pas capables, mais que Dieu est capable. Alors c'est intéressant de réfléchir sur quel est le Goliath qui m'empêche d'avancer, qui me bloque. Et si on l'identifie, peut-être d'essayer de réaliser, de dire, mais comment est-ce que Dieu, tu peux m'aider à défier ce Goliath? Peut-être que finalement, ce Goliath qui m'empêche d'avancer, depuis des années, j'aurais pu le vaincre depuis longtemps. D'ailleurs, je me souviens, lorsque je t'ai rencontré, je me souviens un moment donné dans ma vie où tu m'avais parlé, j'avais reçu quelque chose pour aller pardonner cette personne qui m'avait blessé, et j'y suis pas allé. Aujourd'hui, je me sens incapable d'y aller. Aujourd'hui, je ne peux plus avancer. Aujourd'hui, je ne peux plus aller plus loin. Seigneur, si tu ne fais pas cette œuvre, je ne peux pas la faire. Ces 40 jours, ces 40 moments, c'est ce temps nécessaire de Dieu et nécessaire aussi pour nous. Tomber de nos illusions, tomber de nos... On pense qu'on peut faire les choses. Nous entendons des fois le Seigneur nous parler et puis nous disons, à partir de maintenant, je vais faire, je vais. Et ça ne dure jamais bien longtemps. Mais si on laisse Dieu prendre le contrôle et faire les choses, là, nos géants peuvent tomber. C'est donc la première partie de mon message. Le géant tombera, c'est sûr. C'est parce que Dieu voudra. Dieu veut que le géant tombe. La question à se poser maintenant, c'est est-ce que j'ai des géants dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Vous avez des gens, lorsque on leur demande si ça va, tout va bien. Moi, j'ai un peu, je me soigne, mais je suis un peu comme ça des fois. Ça va, Julien? Ouais, ça va, tout va bien. Et puis des fois, je m'arrête et je me dis, mais en fait, ça va pas si bien que ça. Il y a des gens qui sont comme ça, tout va bien. Et puis, ils entendent des messages comme ça, simples messages. Et puis, ils se disent, ah, mais moi, je suis pas concerné, j'ai pas de géant dans ma vie. Ça fait combien d'années que tu n'avances plus? Ça fait combien d'années où tu es bloqué? Tu peux pas aller dans telle direction qui pourrait te libérer. Telle direction que tu sais que le Seigneur t'appelle. Ça fait combien d'années? Quel est ton Goliath? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à dire au Seigneur, je ne peux plus avancer, mais je crois que toi, tu peux me faire avancer. Alors j'avais à cœur que ce matin, on puisse prier, demander à Nico, si tu veux revenir, à toute l'équipe, pour simplement nous accompagner dans ce temps. Je crois à l'action, je crois que c'est important de pouvoir faire des choses quand Dieu nous demande de faire, mais je crois que ça doit être accompagné de la prière. Et de la même manière, la prière doit être accompagnée de l'action. Nous pouvons recevoir des choses de la part du Seigneur et puis passer notre temps à prier. Mais si ce n'est pas suivi d'action, il n'y aura pas de changement. Et l'inverse est pareil. Si j'agis, mais je ne prends pas le temps de consulter le Seigneur et accompagner mes actions de la prière, ça ne marche pas. C'est comme nos deux jambes. Nous avons besoin de nos deux jambes pour marcher. Nous avons besoin de l'action et de la prière. Nous entendons souvent des messages, excellents messages, très bons messages. Ils nous disent « Ah, ça me fait du bien, etc. » Mais quelles sont les décisions qui sont prises à la suite de ces messages? À quel moment j'ai placé des actions par rapport à ce qui m'interpellait? Et à quel moment j'ai plié le genou devant Dieu, d'une certaine manière, prier, recevoir son message et me mettre en action? Vous pourrez écouter tous les messages de votre vie, les meilleurs du monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez sur Internet, il y a à boire et à manger, bien entendu, mais il y a d'excellents messages qui vous feront du bien, certainement. Mais si ce n'est pas mis en pratique, si ce n'est pas mis en application, et c'est si ce n'est pas dans le temps de Dieu, vous passerez à côté. Vous pouvez passer toute votre vie à l'église à écouter des sermons, des beaux messages, et votre vie ne changera pas. Ce qui changera, c'est de plier le genou devant Dieu. Alors ce matin, les points sont simples. Est-ce que j'ai un Goliath qui m'empêche d'avancer? Si j'analyse, s'il n'y a pas de Goliath, il n'y a pas de Goliath, merci Seigneur. Mais si j'ai un géant qui m'empêche d'avancer, je me dis, quoi que je fasse, je tremble. Quoi que je fasse, je n'ai pas envie. Quoi que je fasse, je ne peux pas aller dans telle direction. Pourtant, je sais que c'est la bonne. S'il y en a un, s'il est identifié, peut-être c'est le temps de dire au Seigneur, je te demande pardon. Parce que je n'ai pas été jusqu'au bout, peut-être. Par négligence. Peut-être parce que je n'avais pas envie. Parce que j'avais la flemme. Les jeunes disent ça aujourd'hui. Ça va? Flemme. J'avais la flemme. Et pourtant, ce géant, maintenant, m'empêche d'avancer. Puissions prier. Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Nul ne peut se dresser contre toi. Tu es ce Dieu qui aime et qui contrôle. Et rien n'arrive sans que tu ne sois derrière tout cela. Croyons que tu es ce Dieu qui change le mal en bien. Et l'ennemi est aussi celui qui fait une œuvre qui le trompe. Nous croyons que même au travers des difficultés et des géants qui se dressent devant nous, tu es celui qui sera glorifié. Père éternel, nous sommes là devant toi ce matin. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Et tu sais si nous avons des géants et peut-être que nous ne savons pas encore. Et si les géants sont là, nous font trembler, nous empêchent d'avancer, Père, déjà nous voulons te demander pardon. Pardon si nous avons été négligents, si nous avons choisi peut-être la facilité. Pardon si nous avons tremblé, comptant sur nos forces plus que sur les tiennes. Pardon d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre à laisser ces géants dans nos vies. Père, nous voulons compter sur ta grâce ce matin. Tu puisses continuer ton œuvre en nous. Pendant que nous allons continuer de louer le Seigneur, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais tu sais, j'aime bien que nous puissions répondre concrètement aux interpellations du Seigneur. Et ce matin, pendant que nous sommes dans le recueillement, nous sommes placés dans la présence de Dieu, que la présence de Dieu, la parole de Dieu, que son action qui compte ce matin. Si à l'évidence, après avoir écouté ces quelques mots, tu te dis, mais moi, je pense être concerné par tout cela. Que, d'une certaine manière, tu ne sais pas comment faire. Tu aimerais voir renverser ce géant, mais ça te paraît impossible. J'aimerais juste faire un appel. Parce que Dieu te voit. Et que, en tant que frère et sœur, en tant qu'église locale, puissions nous serrer les coudes aussi dans ces moments. Pensons toujours que nous pouvons régler nos problèmes tout seuls. C'est souvent une illusion, tout ça. J'aimerais juste faire un appel pour ceux qui, après ces quelques mots, se disent bah, « c'est à moi que ça parle ». Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui me bloque, et comme un géant que j'ai laissé prendre place et qui maintenant m'empêche d'avancer. Peut-être que les 40 jours sont terminés pour toi ce matin, que le Seigneur veut t'utiliser pour renverser ce géant. Alors simplement, à ta place, tu peux juste te lever. Il n'y a rien de magique d'une certaine manière dans ça. C'est simplement pour toi, pour dire, voilà, ce matin, je me lève. Parce que je sais que si je reste assis, je vais passer à autre chose. Ce matin, je me lève pour dire, voilà, je me lève. Je sais que j'ai un problème, je sais qu'il y a ce géant, je ne peux plus avancer. Et ce matin, c'est ma matinée de guérison, de bénédiction. Ce matin, c'est le processus, le commencement du jour où le géant va tomber dans ma vie. Tu puisses simplement te lever à ta place. Et puis, je ne sais pas si vous avez l'habitude, je prends la place peut-être, mais j'aimerais vous demander d'être encore plus courageux. Si vous êtes levé à votre place, de venir juste là, devant. Et puis, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je vais demander aussi à Bernard, s'il te plaît, si tu veux venir aussi avec moi, qu'on puisse prier ensemble pour les frères et sœurs qui se sont approchés. Approchez-vous, on va se mettre devant. Aussi avec moi prier, demander la bénédiction du Seigneur sur chacun de vous, demander à ce que le Seigneur puisse vous conduire dans ce qu'il a préparé. Et vous le savez déjà, mais ni Bernard ni moi ne pouvons faire quoi que ce soit pour vous. Nous prions juste au nom du Seigneur Jésus et c'est lui qui agit en fonction de ce qu'il a prévu. Mais je prie en tout cas que ce soit une matinée de libération, une matinée où le géant commence à tomber. Amen. Pendant que nous continuons de louer le Seigneur.
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre entendre ta voix, Seigneur, tu seras toujours là. Ébloui devant toi. Ébahis. Je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Thank you.